Border Life.
Psychoéducation. Les fragilisateurs. Pourquoi parfois il suffit de presque rien. Bonjour. Aujourd'hui, on va discuter fragilisateur. Alors, fragilisateur, c'est pas un terme TCD, c'est moi qui ai posé ce mot pour définir tous ces facteurs internes ou externes qui, sans être forcément le déclencheur de l'émotion, réduisent de manière passagère nos ressources et augmentent notre vulnérabilité émotionnelle. Ça peut ainsi faire qu'une situation habituellement gérable provoque à ce moment-là une réaction plus rapide, plus intense ou plus difficile à réguler. Car il y a des jours où quelqu'un peut mettre 3 heures à répondre à un message et bon, c'est pas agréable, mais ça agace, ça inquiète un peu, mais on continue la journée. Et puis ce jour-là, même personne, même absence de réponse, même 3 heures, et cette fois, wham, le cerveau part à 200 km/h. Il m'évite, si j'ai fait quelque chose, je le savais, c'est toujours pareil. L'émotion monte beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, et l'envie de faire quelque chose, supprimer le message, envoyer balader la personne, relancer, devient beaucoup plus forte. Alors forcément, une question arrive après coup. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Et souvent, on cherche la réponse uniquement dans ce qui vient de se passer, le message, la remarque, le conflit, le changement de ton. Sauf qu'en fait, une réaction émotionnelle, elle commence pas toujours au moment du déclencheur. Parfois, son histoire, elle a commencé plusieurs heures avant, voire plusieurs jours. Le déclencheur n'explique pas tout. Dans Border Life, j'utilise le mot fragilisateur pour parler de tous ces éléments qui rendent, à un moment donné, notre système émotionnel plus réactif. Et le mot est important. Un fragilisateur, c'est pas la cause de l'émotion. Il modifie plutôt le terrain sur lequel l'événement va arriver. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'on a tendance à imaginer nos réactions comme une équation assez simple. Événement, émotion. Quelqu'un annule un rendez-vous, donc je suis en colère. On me fait une remarque, donc je suis blessé. Mais notre cerveau ne répond jamais à un événement dans le vide. Il y répond avec l'état dans lequel il se trouve à cet instant précis. Et cet état, il dépend d'une quantité impressionnante de choses. Sommeil, faim, douleur, stress accumulé, menstruation, de ce qui s'est passé dans les heures précédentes, de la consommation d'alcool ou d'autres substances, d'un conflit qui n'est pas vraiment terminé, ou de plein de petites contrariétés qui s'accumulent. Et parfois même, d'une journée pendant laquelle on a simplement dû tenir, puis arrive un événement relativement banal. On passe devant à la caisse et tout déborde. Et ce qui est trompeur, c'est qu'on voit surtout la dernière goutte. Cette dame qui nous passe devant à la caisse, par exemple. Imaginons un verre presque plein. La dernière goutte tombe et l'eau déborde. Si tu regardes uniquement cette goutte, le phénomène paraît absurde. Comment une goutte peut-elle produire tout ça? En fait, elle ne l'a pas fait toute seule, hein. Elle est simplement arrivée dans un système qui était déjà proche de sa limite. Nos réactions émotionnelles peuvent parfois fonctionner de cette manière. Et pourtant, après coup, on analyse souvent uniquement la dernière goutte. J'ai explosé, mais c'est parce qu'il a dit ça. J'ai paniqué, mais elle n'a pas répondu. Peut-être. Mais la question intéressante est parfois, dans quel état j'étais quand cet événement est arrivé ? Parce que le même événement n'aurait peut-être pas produit exactement les mêmes réactions 12 heures plus tôt. Un cerveau fatigué n'est pas seulement un cerveau qui a sommeil. C'est là que ça devient intéressant. On prend le manque de sommeil, on pourrait croire que sa principale conséquence est assez simple. Être fatigué. En réalité, le sommeil est étroitement lié au système impliqué dans la régulation émotionnelle. Les recherches sur la privation de sommeil montrent notamment une modification de la réactivité des circuits cérébraux impliqués dans la réponse émotionnelle et de leur régulation. Bon, en gros, après une mauvaise nuit, tu n'es pas seulement quelqu'un qui aimerait retourner te coucher. Ton système émotionnel ne fonctionne pas tout à fait dans les mêmes conditions, et c'est pareil à des degrés divers pour beaucoup d'autres facteurs. La faim peut modifier l'humeur et la capacité à réguler certaines réponses. La douleur mobilise des ressources attentionnelles. Le stress prolongé sollicite les systèmes physiologiques qui permettent à l'organisme de s'adapter. Les substances peuvent modifier l'impulsivité, l'inhibition, la perception d'une situation. Et surtout, ces facteurs peuvent s'accumuler. Mais les fragilisateurs, ils ne s'additionnent pas toujours gentiment. C'est rarement de dire, c'est rarement j'ai mal dormi, donc plus 2 de vulnérabilité. J'ai faim, donc encore plus 1. Le fonctionnement humain est beaucoup moins propre qu'un tableau Excel. Une mauvaise nuit peut rendre une contrariété plus difficile à encaisser. Cette contrariété peut augmenter le niveau de stress. Le stress peut perturber la nuit suivante. La fatigue peut rendre plus difficile le fait de préparer un repas, de sortir, de demander de l'aide ou d'utiliser une compétence. Et progressivement, plusieurs petits facteurs commencent à interagir. Et c'est une des raisons pour lesquelles certaines périodes donnent cette impression étrange. En ce moment, ça va pas, je suis hyper susceptible, tout me touche. Ce n'est pas nécessairement que tout est devenu plus grave. Il est possible que ta marge de manœuvre soit devenue plus petite. Et ça change complètement la façon de comprendre certaines réactions. Parce que si on ignore les fragilisateurs, on risque de tirer des conclusions très globales. Je regresse, je régresse, j'arrive pas à avancer. Je suis beaucoup trop sensible. Je pensais que j'allais mieux. Alors qu'une autre lecture est parfois possible. Mon système disposait aujourd'hui de moins de ressources pour gérer ce qui s'est passé. Attention, ça n'annule pas les conséquences du comportement. Hein. Avoir dormi 3 heures peut aider à comprendre pourquoi une colère est montée beaucoup plus vite. Mais ça n'efface pas le fait d'avoir insulté quelqu'un. Comprendre les fragilisateurs ne consiste donc pas à chercher des excuses. Cela consiste à chercher des variables sur lesquelles on peut éventuellement agir. Et en thérapie, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi quelque chose d'un peu injuste avec les fragilisateurs. Plus nous sommes fragilisés, plus certaines choses qui pourraient nous aider deviennent difficiles à faire. Quand on est épuisé, cuisiner correctement peut demander beaucoup d'efforts. Quand on se sent mal, on peut s'isoler alors même que le soutien social pourrait être utile. Et quand les émotions sont déjà très intenses, utiliser une compétence demande davantage d'énergie. C'est un cercle assez classique. La vulnérabilité rend la régulation plus difficile et certaines difficultés de régulation peuvent augmenter la vulnérabilité. C'est aussi pour ça qu'en TCD, on ne s'intéresse pas uniquement à ce qu'il faut faire au moment où l'émotion est à 9 sur 10. On s'intéresse énormément à ce qui se passe avant. Et c'est probablement la partie la moins spectaculaire de la régulation émotionnelle. Dormir suffisamment, manger, prendre soin d'un problème de santé, repérer l'accumulation du stress, faire attention à ses consommations, ne pas attendre d'être complètement vidé pour récupérer. Dit comme ça, c'est pas très impressionnant et en plus j'ai l'air d'une maman. Ça ne ressemble pas à une compétence psychologique sophistiquée. Et pourtant, essayer de réguler une émotion intense tout en ignorant complètement l'état physiologique et psychologique dans lequel elle apparaît, c'est demander beaucoup trop à notre cerveau. La régulation émotionnelle ne commence donc pas quand l'émotion arrive. Une partie du travail consiste à modifier, quand c'est possible, les conditions dans lesquelles cette émotion devrait être traversée. Mais il faut éviter un autre piège. Repérer ces fragilisateurs ne signifie pas qu'il faudrait être parfaitement reposé, parfaitement nourri, parfaitement calme ou équilibré pour être capable de gérer la vie. Ce serait une nouvelle exigence impossible à tenir. Et surtout, certains fragilisateurs ne sont pas contrôlables. Si par exemple on est parent, on peut avoir un bébé qui ne dort pas. On a parfois une maladie chronique ou un TND. On peut avoir une période d'examen, un travail épuisant, un deuil, des difficultés passagères. Bref. Parfois, le fragilisateur, il est là et c'est pas possible de le supprimer. Mais le connaître est utile, parce qu'on peut ajuster nos attentes, prévoir davantage de récupération, reporter certaines décisions lorsque c'est possible et comprendre pourquoi une compétence demande aujourd'hui beaucoup plus d'efforts qu'hier. Et on peut aussi simplement arrêter d'interpréter chaque journée difficile comme la preuve que tout ce qu'on avait construit a disparu. Et oui, c'est peut-être ça, finalement, l'idée essentielle. Quand une réaction paraît beaucoup trop forte par rapport à ce qui vient de se passer, la question n'est pas toujours « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Elle peut devenir « qu'est-ce qui était déjà en train de solliciter mon système avant que ça n'arrive ?» Cette question ne retire ni la responsabilité ni la nécessité de changer certains de nos comportements. Elle ajoute simplement du contexte. Et en TCD, le contexte compte énormément. Parce qu'un comportement devient beaucoup plus compréhensible lorsqu'on cesse de regarder uniquement les 5 secondes qu'il précède. Prendre soin de ces fragilisateurs, ce n'est donc pas chercher à construire une vie dans laquelle plus rien ne nous atteint. C'est essayer de préserver suffisamment de ressources pour pouvoir faire face à ce qui nous atteint et garder, même dans les périodes difficiles, un peu plus de liberté pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt !